« Je suis fort aise, ma bonne mie, que tout ceci vous complaise, » finit-il par répondre. « Voyez-vous, j'agis selon l'exemple de mon père qui, comme vous l'avez connu, était fort mesuré en sa dépense personnelle, mais ne lésinait point lorsqu'il s'agissait de la majesté royale. Montrez bien ces beaux habits, car ils sont pour le peuple qui vous les donne sur son labeur tout autant que pour vous. Et prenez-en grand soin, car vous ne pourrez de sitôt en avoir de pareil. Après le sacre, il faudra nous restreindre. Philippe, demanda Jeanne, ne ferez-vous rien en ce jour pour ma sœur Blanche ?
J'ai fait. Elle est à nouveau traitée en princesse, sous la réserve qu'elle ne sorte pas des murailles où elle est. Il faut qu'il y ait une différence entre elle qui a péché et vous, Jeanne, qui fut toujours pure et qu'on a faussement accusée. Il avait prononcé ces dernières paroles en portant sur sa femme un regard où se lisait davantage le souci de l'honneur royal que la certitude de l'amour. Et puis, ajouta-t-il, son mari ne me cause guère de joie en ce moment. C'est un bien mauvais frère que j'ai là.
Jeanne comprit qu'il serait vain d'insister et qu'elle aurait avantage à ne pas revenir sur le sujet. Elle se retira et Philippe se remit à l'étude des longues feuilles chargées de chiffres que lui présentait Geoffroy de Fleury. Les frais ne se limitaient pas aux seuls vêtements du roi et de la reine. Certes, Philippe avait reçu quelques présents. Ainsi, Mao avait offert le drap marbré pour les robes de petite princesse et du jeune Louis-Philippe. Mais le roi était tenu d'habiller de neuf ses 54 sergents d'armes et leur chef, Pierre de Galard, maître des arbalétriers. Adam Héron, Robert de Gamache, Guillaume de Cérise, les chambellans avaient reçu chacun 10 aunes de rayés de Douai pour se faire des cottes hardies. Henri de Meudon, Furan de la Foyy, Jeannot Malgeneste, Lévoneur, avaient touché un nouvel équipement ainsi que tous les archers. Et comme on armerait 25 chevaliers après le sacre, c'était encore 20 robes à donner. Ces présents de vêtements constituaient les gratifications d'usage. Et l'usage voulait aussi que le roi fît ajouter à la châsse de Saint-Denis une fleur de lys en or constellée d'émeraudes et de rubis.
« Au total ?» demanda Philippe.
« 8548 livres, 13 sols et 11 deniers, sire, » répondit l'argentier. « Peut-être pourriez-vous demander une contribution de joyeux avènement ?»
« Mon avènement sera plus joyeux si je n'impose pas de nouvelles taxes. Nous ferons face autrement, » dit le roi.
Ce fut à ce moment qu'on annonça le comte de Valois. Philippe éleva les mains vers le plafond.
« Voilà ce que nous avions oublié en nos additions. Vous allez voir, Geoffroy, vous allez voir. Cet oncle-là va me coûter plus cher à lui seul que 10 sacres. Il vient me mettre marché en main, laissez-moi seul avec lui. »
Ah, qu'il était splendide, monseigneur de Valois! Brodé, chamarré, doublé de volume par d'épaisses fourrures qui s'ouvraient sur une robe cousue de pierres précieuses, si les habitants de Reims n'avaient pas su que le nouveau souverain était jeune et maigre, on eût pris ce seigneur-là pour le roi lui-même.
« Mon cher neveu, commença-t-il, vous me voyez bien en peine pour vous. Votre beau-frère d'Angleterre ne vient pas.
Il y a longtemps, mon oncle, que les rois d'Outre-Manche n'assistent plus à nos sacres, répondit Philippe.
« Certes, mais ils y sont représentés par quelques parents ou grands seigneurs de leur cour, pour occuper leur place de duc de Guyenne. Or, Édouard n'a envoyé quiconque. C'est confirmé ainsi qu'il ne vous reconnaît pas. Le comte de Flandre, que vous pensiez avoir amadoué par votre traité de septembre, n'est pas là non plus, ni le duc de Bretagne.
« Je sais, mon oncle, je sais.
Quant au duc de Bourgogne, n'en parlons point. Nous étions sûrs qu'il vous ferait défaut. » Mais en revanche, sa mère, notre tante Agnès, vient d'entrer en la ville tout à l'heure, et je ne pense pas que ce soit précisément pour vous apporter son soutien.
« Je sais, mon oncle, je sais, » répéta Philippe.
Cette arrivée imprévue de la dernière fille de Saint-Louis inquiétait Philippe plus qu'il ne le laissait paraître. Il avait d'abord pensé que la duchesse Agnès venait négocier. Mais elle ne montrait guère de hâte à se manifester, et lui-même était décidé à ne pas faire la première démarche.
Si le peuple, qui m'acclame quand je parais, savait de quelles hostilités et menaces je suis entouré, se disait-il.
Si bien que les pères laïcs, qui doivent demain soutenir votre couronne, reprit Valois, vous n'en avez présentement aucun.
Mais si, mon oncle, vous oubliez la comtesse d'Artois et vous-même.
Valois eut un violent mouvement d'épaule.
La comtesse d'Artois ! S'écria-t-il. Une femme pour tenir la couronne, alors que vous-même, Philippe, vous-même n'avez tiré vos droits que de l'exclusion des femmes.
Soutenir la couronne n'est point la cindre, dit Philippe. Faut-il que Mao ait aidé à votre accession pour que vous la grandissiez de la sorte? Vous allez donner crédit davantage à tous les mensonges qui circulent. Ne revenons point sur le passé, mais enfin, Philippe, n'est-ce pas Robert qui devrait figurer pour l'Artois? Philippe feignit de ne pas porter attention aux dernières paroles de son oncle. De toute façon, les pères ecclésiastiques sont là, dit-il.
Ils sont là, dit Valois en agitant ses bagues.
Déjà, ils ne sont que 5 sur 6. Et que croyez-vous qu'ils vont faire, ces pères d'église, quand ils verront que du côté du royaume, une seule main, et laquelle, va se lever pour vous couronner?
Mais mon oncle, vous comptez-vous donc pour rien ?